Mon unique passion dans ce monde, mon cher maître, fut toujours la gloire de cette sainte république et l'exacte obéissance à ses lois. Toujours attentif aux malversations des fripons, dont le métier est celui de tromper et frustrer de ses droits leurs princes et de tenir cachées leurs démarches, j'ai tâché de découvrir leurs secrets et j'ai toujours finalement rapporté à Messer Grande tout ce que j'ai pu découvrir. Il est vrai qu'on m'a toujours payé, mais l'argent qu'on m'a donné ne m'a jamais fait tant de plaisir comme la satisfaction que j'ai ressentie de me voir utile au glorieux évangéliste Saint-Marc. Je me suis toujours moqué du préjugé de ceux qui attachent une mauvaise idée au nom d'espion. Ce nom ne sonne mal qu'aux oreilles de ceux qui, au fond, n'aiment pas le gouvernement, car l'espion n'est autre chose que l'ami du bien de l'État, le fléau des criminels et le fidèle sujet de son prince. Lorsqu'il s'est agi de mettre en activité mon zèle, le sentiment de l'amitié, qui peut avoir quelque force sur d'autres, n'en a jamais eu sur moi, et encore moins ce qu'on appelle reconnaissance, et j'ai souvent juré de me taire pour arracher à quelqu'un un important secret que d'abord suis-je et référé ponctuellement, assuré par mon confesseur que je pouvais le révéler non seulement parce que je n'avais pas eu l'intention d'observer le jurement de silence lorsque je l'avais fait, mais parce qu'en agissant du bien public, il n'y a pas de serment qui tienne. Je sens qu'esclave de mon zèle, j'aurais trahi mon père et j'aurais su imposer silence à la nature. Tel que je suis, il y a 3 semaines que j'ai observé à Isola, petite ville où je demeurais, une grande union entre 4 ou 5 personnes notables de la ville que je connaissais pour mécontentes du gouvernement à cause d'une contrebande surprise et confisquée que les principaux avaient dû expier par la prison. Le premier chapelain de la paroisse, né sujet de l'impératrice, était de ce complot dont je me suis déterminé à développer le mystère. Ces gens-là s'assemblaient le soir dans une chambre du cabaret où il y avait un vieux lit, et après qu'ils avaient bu et parlé ensemble, ils s'en allaient. Je me suis courageusement déterminé à me cacher sous ce lit un jour que, sûr de n'être pas observé, j'ai trouvé la chambre ouverte et vide. Vers le soir, mes gens vinrent et parlèrent de la ville d'Isola, qui disait n'être pas de la juridiction de Saint-Marc, mais appartenant à la principauté de Trieste, car elle ne pouvait aucunement être regardée comme une partie de l'Istrie vénitienne. Le chapelain dit au principal du complot, qui s'appelait P.P., que s'il voulait signer un écrit et si les autres voulaient en faire de même, il irait en personne chez l'ambassadeur impérial et que certainement l'impératrice non seulement s'emparerait de la ville mais les récompenserait. Ils dirent tous au chapelain qu'ils étaient prêts, et il s'engagea de porter le lendemain l'écriture et de partir d'abord pour venir ici la présenter à l'ambassadeur. Avant que de partir, il dit que elle signerait aussi, ce qui me fit une grande peine, car ce elle était mon compère de Saint-Jean, parenté spirituel qui lui donnait sur moi un titre inviolable et beaucoup plus fort que s'il eût été mon frère. Mais après avoir beaucoup combattu avec moi-même, j'ai vaincu ce scrupule aussi et j'ai décidé de faire aller en fumée cet infâme projet. Après leur départ, j'ai eu tout le loisir de m'évader et j'ai cru inutile de m'exposer à un nouveau risque en me cachant le lendemain sous le même lit. J'avais assez découvert. Je suis parti avant minuit dans un bateau. Et le matin, avant midi, je fus ici. Je suis entré dans une apothicairerie où un jeune homme me fit le plaisir d'écrire les 6 noms de ces rebelles et, en s'agissant de crimes d'État, j'ai été chez le secrétaire des inquisiteurs auquel j'ai tout dit. Il m'a ordonné d'aller chez lui le lendemain de bonne heure. J'y fus, et j'ai reçu l'ordre d'aller chez Messer Grandet, qui me donnerait un homme auquel j'aurais dû faire connaître la figure du chapelain en allant d'abord à Isola avec lui, d'où il y avait apparence qu'il ne serait pas encore parti. Il me dit qu'après cela, j'aurais pu me tenir tranquille où je voulais. J'ai exécuté ses ordres. Messer me donna l'homme avec lequel je suis parti d'abord et 6 ducats d'argent pour mes frais. Je suis sûr qu'il en a reçu 12, mais j'ai fait semblant d'en être content. Arrivé à Isola, j'ai montré à mon homme le chapelain et je l'ai laissé. Vers le soir, j'ai vu à sa fenêtre ma commère, femme de elle, qui me pria de monter pour raser son mari, car je suis de mon premier métier barbier et perruquier. Après l'avoir rasé, il me donna un excellent verre de refrosque et coupa quelques tranches de saucisson à l'ail que nous avons mangé ensemble. Même trois seuls avec lui, mon affection de compère de Saint-Jean s'est emparée de mon âme, car je suis bon. En le prenant par la main et versant des larmes, je l'ai prié de quitter l'amitié du chapelain et surtout de se garer de signer une certaine écriture. Mon compère me jura qu'il n'était pas plus ami du chapelain que d'un autre, qu'il n'avait jamais signé aucune écriture. Il me pria de lui dire de quoi il s'agissait. Je me suis pour lors mis à rire. Je l'ai assuré que j'ai badiné et je l'ai quitté, repenti d'avoir écouté mon bon cœur qui m'excitait à lui donner un sage avertissement. Le lendemain, je n'ai vu ni l'homme ni le chapelain. Et 8 jours après, j'ai quitté Isola pour faire une visite à Messer Grandet, qui sans façon me fut mettre hier en prison chez lui et aujourd'hui avec vous, dont je remercie Saint-François, car je suis avec un homme comme il faut et bon chrétien. Je vous crois ici pour quelques raisons que vous savez et que je ne vous demanderai pas. Mon nom est Signor Cecco de Castello, barbiera Pontecello de San Martin. Mon nom de famille est Soradacci, et ma femme est de la maison Les Grenzi, fille d'un secrétaire du Conseil des 10, qui, devenue amoureuse de moi, se moqua du préjugé et voulut m'épouser. Elle sera au désespoir de ne pas savoir ce que je suis devenu, mais j'espère de n'être ici que pour peu de jours et pour la commodité du secrétaire qui apparemment aura besoin de m'examiner. Après cette narration effrontée qui me fit connaître de quelle espèce était ce monstre, j'ai fait semblant de le plaindre, et faisant l'éloge de son patriotisme, je lui ai prédit sa liberté dans peu de jours. Une demi-heure après, il s'est endormi, et j'ai tout écrit au père Balbi, et la nécessité où nous étions de suspendre tout travail pour attendre la favorable opportunité. Le lendemain, j'ai ordonné à Laurent de m'acheter un crucifix de bois, une image de la Sainte Vierge et un flacon d'eau bénite. Soradacci lui demanda hardiment ses 10 sous, et Laurent, en faisant le généreux, se mit à rire et en l'appelant gueux, lui en donna 20. Je lui ai ordonné de me porter 4 fois plus de vin et de l'ail, car mon camarade m'avait dit que l'ail faisait ses délices. Après le départ de Laurent, j'ai partagé ma soupe avec ce traître, et j'ai conçu le projet de faire une expérience, mais auparavant, j'ai tiré adroitement du livre la lettre du père Balbi, et je l'ai lue sans qu'il y prenne garde. Il me peignait dans sa lettre sa surprise, sa frayeur. Il s'était sauvé dans un instant. Il était rentré dans son cachot plus mort que vivant. Il avait vite remis l'estampe sous le trou. Mais si Laurent fût allé chez lui, tout était perdu, car il aurait vu le trou ouvert et il ne l'aurait point vu dans le cachot. Le récit que Soradaci me fit de son affaire m'a fait juger qu'il devait certainement subir des interrogatoires, car on ne pouvait l'avoir enfermé que par soupçon de calomnie ou par obscurité de rapport. J'ai donc décidé de lui confier deux lettres qui, s'il eût porté leurs adresses dans le cas qu'il fût mis en liberté, n'auraient pu me faire ni bien ni mal et qui m'auraient pu que m'être utile si, au lieu de les porter, il m'eût joué un tour de son métier en les donnant au secrétaire. J'ai donc passé une grande partie de la journée à les écrire avec du crayon. Le lendemain, Laurent me porta un crucifix de bois, une image de la Sainte Vierge et une bouteille d'eau bénite. Après avoir bien donné à manger à Soradaci et mieux à boire, je lui ai dit que j'avais besoin de le prier de me rendre un grand service, en comptant sur sa fidélité pour le secret et sur son courage, car si l'on vint à savoir que ce fut lui qui m'eût fait ce plaisir, il serait puni. Après ces paroles, je lui ai dit qu'il s'agissait de porter à leur adresse deux lettres desquelles dépend de ma félicité. Je lui ai demandé s'il voulait jurer sur le crucifix et sur la Sainte Vierge qu'il ne me trahirait pas. Il me répondit qu'il était prêt à jurer et à mourir plutôt que de manquer à sa foi, et il versa des larmes dont la grande source ne s'ouvrait qu'après qu'il avait bu. Je lui ai d'abord fait présent d'une chemise et d'un bonnet. Je me suis alors levé, j'ai ôté le mien, et devant les deux saintes images, j'ai prononcé une formule de serment avec des conjurations qui n'avaient pas l'ombre du bon sens, mais qui étaient épouvantables. J'ai arrosé d'eau bénite le cachot, sa personne, la mienne, et je me suis fait plusieurs signes de croix. Je l'ai fait mettre à genoux, jurer et se faire les plus horribles imprécations s'il violait le serment. Intrépide, il a dit tout ce que j'ai voulu. Après cela, je lui ai donné mes deux lettres décachetées, et ce fut lui-même qui voulut les coudre dans la doublure du dos de sa veste pour qu'on ne puisse pas les lui trouver si, par hasard, on eût voulu fouiller à sa sortie. J'étais moralement sûr que cet homme remettrait mes lettres au secrétaire. Aussi ai-je employé tout l'art pour que le tribunal ne puisse jamais, par mon style, relever ma ruse. Ces lettres étaient faites pour me concilier la pitié et l'estime des trois tout-puissants qui me tenaient dans un si dur esclavage. Elles étaient adressées à M. de Béhère et à M. de Géhère. Je les priais de me conserver leur bonté, de se tenir tranquille et ne s'affliger aucunement sur mon sort, puisque la douceur avec laquelle je me voyais traité me faisait espérer d'obtenir bientôt ma grâce. Je leur disais qu'ils trouveraient à ma sortie que cette détention, bien loin de m'avoir fait du mal, m'avait été nécessaire, et que personne à Venise n'avait eu plus besoin de réforme que moi. Je priais M. de G.R. de m'envoyer quelques flacons de vin de Polsnel, et M. de B.R. de m'envoyer l'histoire de Venise, de Costarini, et des bottes très larges, doublées de peau d'ours avant l'hiver, car me trouvant dans un cachot où je pouvais marcher debout, j'avais besoin de tenir mes jambes chaudes. Je n'ai pas voulu que Soradaci sache que mes lèvres étaient innocentes à ce point-là, car s'il l'avait su, il lui serait peut-être venu le caprice de faire une action d'honnête homme. Il les cousut à sa veste. Deux jours après, Laurent monta à Terza et dit à Soradaci de descendre, et ne l'ayant pas vu retourner, j'ai cru ne plus le revoir. J'ai écrit au moine de poursuivre son travail, mais vers la fin du jour, j'ai vu Laurent qui me reconduisait ce méchant animal. Il me dit, après le départ du gardien, que le secrétaire le soupçonnait d'avoir averti le chapelain, puisque non seulement il n'avait jamais été chez l'ambassadeur, mais il n'avait eu sur lui à son arrivée à Venise ni lettre ni écriture. Il me dit qu'après cet interrogatoire dans lequel le secrétaire devait être assuré de son innocence, on l'avait mis tout seul dans une petite prison où on l'avait laissé 7 heures et qu'après on l'avait garrotté pour une seconde fois et on l'avait ainsi reconduit devant le secrétaire qui voulait qu'il confessât d'avoir dit à quelqu'un à Isola que le prêtre ne retournerait plus là, ce qu'il n'avait pu confesser, car c'était faux. Le secrétaire, enfin, avait sonné et l'avait fait remettre avec moi. J'ai connu, sans rien dire et avec amertume, qu'il était possible qu'on le laissât avec moi pour longtemps. Dans la nuit, pendant qu'il dormait, j'ai écrit au père Balbi tout cet événement, après avoir tiré hors du livre la lettre que je lui avais écrite. C'est à cette occasion que je me suis rendu habile à écrire dans l'obscurité. Le lendemain, après avoir avalé mon bouillon, j'ai voulu m'assurer de ce dont je me doutais déjà. Je lui ai dit que je voulais ajouter quelque chose sur une des deux lettres et que nous la recoudrions après. Le sot me dit que c'était inutile et dangereux, puisqu'on pouvait venir dans ce moment-là et nous surprendre. Je fus pour lors sûr de sa trahison, et je lui ai dit que je voulais cela absolument. Ce monstre, alors, se jeta à genoux et me jura qu'à sa seconde apparition devant le redoutable secrétaire, il lui prit un grand tremblement et une pesanteur insoutenable au dos, dans l'endroit même où les lettres étaient, et que le secrétaire, lui ayant demandé ce qui lui arrivait, il avait pu s'empêcher de lui déclarer la vérité, qu'il avait sonné alors et que Laurent, l'ayant dégarrotté et ôté sa veste, il avait décousu les lettres que le secrétaire avait mises dans un tiroir après les avoir lues. Il me dit que le secrétaire l'avait assuré que s'il lui portait ses lettres, on l'aurait su et que sa faute lui aurait coûté la vie. J'ai fait alors semblant de me trouver mal. J'ai porté mes mains devant mon visage. Je me suis jeté sur le lit à genoux devant le crucifix et la Vierge et je leur ai demandé vengeance du monstre qui m'avait perdu en violant le plus solennel de tous les serments. Après cela, je me suis couché sur le côté, avec mon visage tourné vers la cloison, et j'ai eu la constance de me tenir ainsi, sans articuler le moindre mot, pour toute la journée, faisant semblant de ne pas entendre les pleurs, les cris et les protestations de repentir de cet infâme. J'ai joué mon rôle à merveille pour une comédie dont j'avais déjà tout le cadenas dans ma tête. J'ai écrit dans la nuit au père Balbi de venir à 19 heures précises, pas une minute avant ni après, pour achever son travail et de ne travailler que 4 heures, de sorte que, sans nulle faute, il devait partir précisément lorsqu'il entendrait sonner 23 heures. Je lui ai dit que notre liberté dépendait de cette fidèle exactitude et qu'il n'y avait rien à craindre. Nous étions au 25 d'octobre et les jours s'approchaient dans lesquels je devais exécuter mon projet ou l'abandonner pour toujours. Les inquisiteurs d'État et même le secrétaire allaient tous les ans passer les 3 premiers jours de novembre dans quelques villages de la terre ferme. Laurent, dans ses 3 jours de vacances de ses maîtres, se saoulait le soir, dormait jusqu'à Terza et ne paraissait que fort tard sous les plombs. Il y avait déjà un an que j'avais appris cela. Je devais, par prudence, devant m'enfuir, prendre une de ces nuits pour être sûr que ma fuite n'aurait été découverte que le matin assez tard. Une autre raison de cet empressement, qui me fit prendre cette résolution dans un temps où je ne pouvais plus douter de la scélératesse de mon camarade, fut très puissante, et elle mérite, ce me semble, d'être écrite. Le plus grand soulagement qu'un homme qui est dans la peine puisse avoir est celui d'espérer d'en sortir bientôt. Il contemple l'heureux instant dans lequel il verra la fin de son malheur. Il se flatte qu'il ne tardera pas beaucoup à arriver, et il ferait tout au monde pour savoir le temps précis dans lequel il arrivera. Mais il n'y a personne qui puisse savoir dans quel instant un fait qui dépend de la volonté de quelqu'un arrivera, à moins que ce quelqu'un ne l'ait dit. L'homme néanmoins, devenu impatient et faible, parvient à croire que l'on puisse par quelque moyen occulte découvrir ce moment. Dieu, dit-il, doit le savoir, et Dieu peut permettre que l'époque de ce moment me soit révélée par le sort. D'abord que le curieux a fait ce raisonnement, il n'hésite pas à consulter le sort, disposé ou non à croire infaillible tout ce qu'il peut lui dire. Tel était l'esprit de ceux qui consultaient jadis les oracles. Tel est l'esprit de ceux qui interrogent encore aujourd'hui les cabales et qui vont chercher des révélations dans un verset de la Bible ou dans un vers de Virgile. Ce qui a rendu si célèbres les « Sortes Virgilianae » dont plusieurs auteurs nous parlent. Ne sachant pas de quelle méthode me servir pour me faire révéler le moment de ma liberté par la Bible, je me suis déterminé à consulter le divin poème du Roland Furieux de Messire Lodovico Ariosto, que j'avais lu 100 fois et qui faisait encore la home et délices. J'idolâtrais son génie. Je croyais beaucoup plus propre que Virgile à me prédire mon bonheur. Dans cette idée, j'ai couché une courte question dans laquelle je demandais à une intelligence que je supposais dans quel champ de l'Arioste se trouvait la prédiction du jour de ma délivrance. Après cela, j'ai formé une pyramide à rebours, composée des nombres résultant des paroles de mon interrogation, et avec la soustraction du nombre 9 de chaque couple de chiffres, j'ai trouvé, pour le dernier nombre, le 9, et j'ai cru que dans le 9e champ, il y avait ce que je cherchais. J'ai suivi la même méthode pour savoir dans quelle stance de ce champ se trouvait cette prédiction, et j'ai trouvé le nombre 7, et curieux enfin de savoir dans quel vers de la stance se trouvait l'oracle, j'ai reçu le 1. J'ai d'abord pris entre mes mains l'Arioste avec le cœur palpitant, et j'ai trouvé que le premier vers de la 7e strophe du 9e chant était « Tra il fin d'ottobre e il capo di novembre ». La précision de ce vers et l'à-propos me parurent si admirables que je ne dirais pas d'y avoir ajouté foi, mais le lecteur me pardonnera si je me suis disposé de mon côté à faire tout ce qui dépendait de moi pour aider à la vérification de l'oracle. Le singulier de ce fait est que tra il fin d'octobre et il capo di novembre, il n'y a que minuit, et que ce fut positivement au son de la cloche du minuit du 31 d'octobre que je suis sorti de là, comme le lecteur va voir. Je le prie de ne pas vouloir, d'après cette fidèle narration, me dépêcher pour un homme plus superstitieux qu'un autre, ni pour un esprit capable, à cause d'un fait pareil, de former un système, il se tromperait. Je narre la chose parce qu'elle est vraie, quoique extraordinaire, et parce qu'à cause de l'attention que j'y ai faite, il m'est peut-être arrivé de me sauver. Ce ne sont pas les prédictions qui font arriver un fait quelconque, mais c'est le fait lui-même qui, arrivant, rend à la prédiction le service de l'avéré. Lorsque le fait n'arrive pas, elle devient nulle. Mais il y a dans l'histoire générale beaucoup d'événements qui ne seraient jamais arrivés s'ils n'eussent pas été prédits. Voici comment j'ai passé la matinée jusqu'à 19 h pour frapper l'esprit de ce méchant ignorant, pour porter la confusion dans sa frêle raison avec des images extraordinaires et étonnantes, et pour le rendre par là incapable de me nuire. Le matin, après que Laurent, auquel j'ai donné le livre pour le prêtre Balbi, nous quitta, j'ai dit à Soldacci de venir manger la soupe. Cet homme s'était tenu couché, ayant dit au gardien qu'il était malade, et ne se serait pas levé de sa paillasse si je ne l'eusse pas appelé. Il se leva, s'étendit sur son ventre à mes pieds, me les baisa et me dit en versant des larmes et en sanglotant comment que je lui pardonnasse s'il se voyait mort dans la journée et qu'il sentait déjà le commencement de la malédiction dépendant de la vengeance de la Sainte Vierge que j'avais conjurée contre lui. Il sentait les tranchées qui lui déchiraient les entrailles et sa langue s'était remplie d'ulcères. Il me la montra alors. Et avec quelques surprises, je l'ai vue réellement couverte d'aphtes. Je ne sais pas s'il les avait le jour précédent. Je ne me suis pas soucié de l'examiner beaucoup pour voir s'il disait la vérité. Mon intérêt était celui de faire semblant de le croire et de lui faire espérer pardon. Il fallait le faire manger. Il avait peut-être l'intention de me tromper, mais déterminé à le tromper comme j'étais, il s'agissait de voir lequel de nous deux jouerait avec le plus d'habileté son personnage. J'ai emprunté dans l'instant une physionomie d'inspiré et je lui ai ordonné de s'asseoir. « Mangeons ce potage, lui dis-je, et après je vous annoncerai votre bonheur. Sachez que la Sainte Vierge m'est apparue à la pointe du jour et m'a ordonné que je vous pardonne. » Vous ne mourrez pas et vous serez heureux. » Tout ébahi, il mangea la soupe avec moi à genoux, puis il n'y avait pas de chaise, puis il s'assit sur la paillasse pour m'écouter. Voici mon discours. La douleur que votre trahison m'a causée m'a fait passer toute la nuit sans dormir, puisque mes lettres que vous avez données au secrétaire ayant été lues par les inquisiteurs d'État, j'étais sûr qu'après leur lecture, ils m'auraient condamné à passer ici tout le reste de ma vie. Mon unique consolation, je le confesse, était celle d'être certain que vous mourriez dans le terme de 3 jours, dans ce cachot même, sous mes yeux. Ayant la tête pleine de ce sentiment indigne d'un chrétien, car Dieu veut que nous pardonnions, un assoupissement à la pointe du jour me procura une véritable vision. J'ai vu cette même image de la Sainte Vierge que vous voyez ici devenir vivante, se mouvoir, se mettre devant moi, ouvrir la bouche et me parler en ces termes. Soldacci est dévot de mon très saint rosaire. Je le protège. Tu me feras plaisir à lui pardonner. Et la malédiction de Dieu cessera d'abord d'opérer sur lui. En récompense de ton acte généreux et chrétien, j'ordonnerai à un de mes anges de prendre la figure d'un homme et de descendre d'abord du ciel pour venir rompre le toit de ce cachot et te tirer dehors dans 5 à 6 jours. Cet ange commencera son ouvrage aujourd'hui à 19 h et il travaillera jusqu'à 1/2 heure avant que le soleil se couche, car il doit remonter au ciel les mois en plein jour. En fuyant d'ici, tu conduiras avec toi Soldacci et tu auras soin de lui pour toute sa vie, sous condition qu'il quitte pour toujours le métier d'espion. Tu rendras finalement à ce pauvre homme tout ce que je viens de te dire. » Ce discours terminé, la Sainte Vierge disparut et je me suis trouvé avec mes yeux ouverts. J'observais, en me conservant dans le plus sérieux, la figure de ce traître qui paraissait pétrifié. Lorsque j'ai vu qu'il ne me répondait pas, j'ai pris entre mes mains un livre d'heures, je me suis fait le signe de la croix, j'ai baisé l'image de la Vierge, j'ai arrosé le cachot d'eau bénite et j'ai commencé à faire semblant de prier. Une heure après, cet animal qui n'avait jamais ouvert la bouche ni bougé de sa paillasse s'avisa de me demander à quelle heure l'ange devait descendre du ciel et si nous entendrions quelque indice de son arrivée. « Oh, je suis sûr, lui répondis-je, qu'il viendra à 19 heures, que nous entendrons son travail et qu'il s'en ira à 23. Et il me semble que pour un ange, c'est assez que de travailler 4 heures de suite. » Une demi-heure après, il me dit que je pouvais avoir rêvé. Je lui ai répondu froidement que j'étais sûr que non. Je lui ai ajouté qu'il devait me jurer de quitter le métier d'espion. Il s'étendit sur sa paillasse et il dormit 2 heures. À peine réveillé, il me demanda s'il pouvait différer à me prêter le serment de quitter le métier qu'il faisait jusqu'au lendemain. Et je lui ai dit qu'il était le maître de différer jusqu'au dernier moment de mon séjour dans le cachot, mais que je ne le conduirais jamais avec moi, que préalablement il ne m'ait prêté le serment que la Sainte Vierge, sa protectrice, exigeait. J'ai alors observé sa satisfaction, car en lui-même il était sûr que l'ange ne viendrait pas. Toutes les heures avant les 19 lui furent fort longues, mais elles se passèrent pas plus vite pour moi. Cette comédie m'amusait, et je me sentais sûr de son effet. L'incertitude, cependant, me tourmentait. Je me voyais perdu si, par oubli, Laurent n'eût pas porté le livre au père Balbi. À 18 heures, j'ai voulu dîner. J'ai bu de l'eau et Soladachi but tout le vin que j'avais et il a mangé tout l'ail au dessert. C'était sa confiture. Lorsque j'ai entendu 19 heures, je me suis jeté à genoux en lui ordonnant d'en faire autant d'un ton de voix qu'il épouvanta. Il m'obéit en me regardant fixement comme un imbécile. Lorsque j'ai entendu le petit bruit qui m'indiquait le passage du mur. « L'ange vient !» lui dis-je. Et je me suis couché sur mon ventre en le poussant pour le faire tomber dans la même position. Le bruit de la fraction était fort. Je me suis tenu là un bon quart d'heure, et lorsque je me suis levé, il me vint envie de rire en voyant qu'il s'était tenu ainsi couché comme moi avec la plus grande obéissance. J'ai passé 3 heures et demie à lire et lui à marmotter le rosaire, à prier, à soupirer, à dormir à plusieurs reprises et à faire des gestes à l'image de la Vierge dont rien n'était plus comique. Au son de 23 heures, je me suis levé et je lui ai fait signe de m'imiter en se couchant de nouveau sur le ventre, puisque l'ange devait s'en aller. Il fallait le remercier. Le père Balbi partit et nous n'ouïmes plus aucun bruit. La confusion, l'effroi, l'étonnement étaient tous à la fois peints sur la physionomie de ce méchant homme. J'ai commencé à lui parler pour entendre comme il raisonnerait. Il me paraissait fou. La liaison de ses propos allait à l'extravagance. Il parlait de ses péchés, de ses dévotions, des miracles que sa femme lui avait contés, de ce qu'il pourrait faire avec moi, ignorant comme il l'était. Et il me fit une réflexion fort singulière, à laquelle je n'ai répondu qu'en biaisant. Il me dit que s'il ne m'eût pas trahi, je n'aurais jamais reçu de la Sainte Vierge une grâce si signalée et qu'ainsi j'en avais l'obligation. Il voulait jurer d'abord, mais je lui ai dit qu'avant que d'en venir là, j'avais besoin d'une véritable marque de son obéissance. Je lui ai dit qu'il devait se tenir immobile sur sa paillasse, le visage tourné vers la cloison, tout le temps que Laurent resterait le matin dans le cachot, et que s'il lui parlait, il devait lui répondre sans le regarder et ne lui dire autre chose, sinon que les puces ne le laissaient pas dormir. Il me promit qu'il ferait exactement ce que je lui ordonnais. J'ai ajouté avec un ton de douceur, mais ferme et imposant, que j'étais ainsi inspiré et en devoir de tenir les yeux sur lui pour courir l'étrangler si je lui suis qu'il jetterait sur Laurent le moindre regard. Dans la nuit, j'ai écrit au moine l'histoire de ce prodige pour lui faire comprendre l'importance de l'exactitude dans le rôle d'ange que je lui faisais jouer. Je lui disais que nous sortirions la nuit du 31 et que nous serions quatre en comptant son camarade. Soradaci, le lendemain matin, exécuta sa leçon à merveille. Il fit semblant de dormir. Même étonnement et augmentation de foi lorsqu'après dîner, l'ange retourna. Je ne lui faisais que des discours sublimes, inspirant le fanatisme, et je ne le laissais en paix que lorsque je le voyais ivre de vin, prêt à s'endormir ou sur le point de tomber en convulsion par la force d'une métaphysique tout à fait étrangère et neuve à une tête qui n'avait jamais exercé ses facultés que pour inventer des ruses d'espions. Il m'embrassa un jour en me disant qu'il ne concevait pas comment un ange pouvait avoir besoin d'un temps si long pour percer des planches. Lorsque j'ai su que le petit canal en cercle était fini, j'ai accepté le serment qu'il me fit de quitter son vil amitié et je lui ai juré de ne jamais l'abandonner. Il se peut qu'ici, quelques lecteurs aient besoin d'une déclaration de ma façon de penser sur ce serment et sur l'usage que j'ai fait de nos sacrés mystères et de notre religion pour tromper ce méchant animal. J'ai aussi besoin de la faire en général, cette déclaration, en qualité d'apologie, car je ne veux ni scandaliser personne, ni passer pour un autre. Je dirais donc que je ne prétends ni de me vanter, ni de me confesser. Mon but n'est que d'écrire la pure vérité, sans m'embarrasser du jugement que quiconque me lira pour apporter sur ma façon de penser ou sur ma morale. Mais, par manière d'acquis, je puis cependant m'expliquer un peu là-dessus. Je ne me vante pas d'avoir abusé de ma religion et du germe que cet homme-là en avait dans l'âme, parce que je sais que je m'en suis servi à contre-cœur et ne pouvant faire autrement dans la nécessité où j'étais de me sauver. Je ne me confesse pas non plus d'avoir fait ce que j'ai fait, parce que je n'en rougis pas, parce que je ne me sens pas repenti et parce que je sens que j'en agirai de même aujourd'hui si le cas l'exigeait. La nature m'ordonnait de me sauver. La religion ne me le défendait pas. Je n'avais pas de temps à perdre. Il fallait mettre un espion que j'avais avec moi et qui m'avait communiqué sa façon de penser dans l'impuissance d'avertir Laurent qu'on rompait le toit du cachot. Que devais-je faire? Je n'avais que deux moyens. Il fallait opter. Ou faire ce que j'ai fait en lui enchaînant l'âme, ou l'étouffer en l'étranglant, ce qui m'aurait été beaucoup plus facile sans rien craindre. Car j'aurais dit qu'il était mort de sa mort naturelle, et on ne se serait étonné, à ce que je crois, nulle peine pour savoir si c'était vrai ou si c'était faux. Or, quel est le lecteur qui pourra penser que j'aurais mieux fait à l'étrangler? S'il y en a un, Dieu puisse l'éclairer. Sa religion ne sera jamais la mienne. J'ai fait mon devoir, et la victoire qui couronne mon exploit peut être une preuve qu'il fut approuvé de la providence éternelle. Pour ce qui regarde le serment que je lui ai fait faire d'avoir toujours soin de lui, il m'en a délivré, Dieu merci, lui-même, car il n'a pas voulu se sauver avec moi. Mais quand même il se serait sauvé avec moi, je confie à mon bon lecteur que je ne me serais pas cru parjure en me débarrassant de lui d'abord que j'aurais cru de pouvoir le faire en toute sûreté. Eussé-je dû le pendre à un arbre? Lorsque je lui ai juré une assistance éternelle, je savais que sa foi ne durait qu'autant que l'exaltation de son fanatisme qui devait disparaître dès qu'il aurait vu que l'ange était un moine. « Non merta fe qui non la verba altrui, » dit le Tasse. L'homme a beaucoup plus de raisons d'immoler tout à sa propre conservation que les souverains n'en ont pour conserver leurs états. Le 30 au soir, j'ai écrit au père Balbi d'ouvrir le trou à 18 h et d'entrer chez moi. Je lui ai dit de porter avec lui des ciseaux que je savais que le comte avait le privilège de posséder. Le 31, de bon matin, j'ai vu Laurent pour la dernière fois, et dès que je l'ai vu parti, j'ai dit à Soladaci que l'ange viendrait à 18 h par le trou du toit. Nous nous sortirions pour aller faire un autre trou. Je lui ai dit que l'ange aurait une barbe longue comme la mienne et des ciseaux avec lesquels il nous la couperait à tous les deux. Toujours étonné, il ne doutait plus de rien et il me promit obéissance. Mais tout était déjà fait, je ne me souciais plus de lui en faire croire. Jamais 7 heures ne me durèrent si longtemps. Au moindre bruit que j'entendais dehors, je m'attendais à voir Laurent qui serait venu prendre l'espion, qui n'aurait pas manqué de lui narrer d'abord tous les prodiges dont il avait été témoin. J'en serais mort de douleur. Je n'avais pas dormi, je n'ai pu manger ni boire. Enfin, 18 h sonnèrent. L'ange n'employa que 10 minutes à ouvrir le trou en enfonçant la petite cannelle. J'ai reçu entre mes bras le père Balbi, qui entra à ses jambes les premières. Je l'ai cordialement embrassé en lui disant « Voilà vos travaux terminés, les miens vont commencer maintenant. » L'esponton va d'abord entre mes mains, et j'ai donné les ciseaux à Soladaci pour qu'il coupe nos barbes. Cet homme était tout hors de lui-même en regardant le moine, qui avait l'air de tout hormis que d'un ange. Malgré sa confusion, il nous fit la barbe à la pointe des ciseaux dans moins d'une heure et il nous la fit à la perfection. J'ai dit en latin au moine de rester là, car je ne voulais pas laisser ce coquin tout seul. Je suis monté sur mon fauteuil et poussé par les jambes, je suis sorti et je me suis trouvé sur le toit de mon cachot. Je me suis approché du mur, où j'ai eu beaucoup de peine à passer par le trou, qui, malgré mes instructions, était trop haut et trop étroit, mais j'y suis passé. Au-delà du mur, je me suis trouvé sur le cachot du comte. Je me suis descendu et j'ai cordialement embrassé ce malheureux vieillard. J'ai vu une taille d'homme qui n'était pas fait pour aller au-devant des difficultés et des dangers auxquels une pareille fuite devait nous exposer, sur un grand toit penchant, tout couvert de plaques de plomb. Il me demanda d'abord quel était mon projet, en me disant qu'il croyait que j'avais fait trop de pas inconsidérément. Je lui ai répondu que je ne suis mis exprès dans la nécessité d'aller en avant jusqu'à ce que je trouvasse la liberté ou la mort. Il me dit alors, en me serrant la main, que si je pensais de percer le toit du palais et d'aller chercher là une issue qu'il ne voyait pas, il n'aurait pas le courage de me suivre, car il serait sûr de se précipiter et que cela étant, il resterait là pour prier Dieu pour nous, tandis que nous le chercherions le moyen de nous sauver. Impatient de voir le local, je suis remonté pour aller m'approcher des bords latéraux du grenier et, parvenu à toucher le toit, je me suis courbé tant que j'ai pu pour parvenir au bord tant qu'il était possible. Assis très commodément entre les œuvres de comble dont les greniers de toutes les grandes maisons sont remplis, j'ai tâté pour 2 minutes avec la pointe de mon verrou, ses planches, et je les ai trouvés comme pourris. Je me suis vu sûr de faire une très grande ouverture dans moins d'une heure. J'ai remercié de tout mon cœur la Providence éternelle et je suis retourné en repassant le mur dans mon cachot où j'ai employé 4 heures à couper en long tous les draps de lit que j'avais essuie-mains, serviettes, couvertures et matelas, en nouant moi-même ensemble toutes les longues pièces, de façon que je me suis vu mettre de 100 brasses de cordes très fortes et dont j'étais sûr de la résistance, car j'avais fait moi-même les nœuds qu'on appelle de tisserands. Cette diligence était nécessaire, car un nœud mal fait aurait pu se délasser et l'homme qui, dans l'instant, se serait trouvé suspendu à la corde aurait précipité. Il y a dans les grandes entreprises des articles qui décident de tout et sur lesquels le chef qui mérite de réussir ne doit se fier à personne. Après cela, j'ai fait un paquet de mon habit, de mon manteau, de bouts de soie, de quelques chemises, de bas, de mouchoirs, et nous sommes entrés tous les trois dans le cachot du comte, emportant avec nous tout ce bagage. Le comte fit d'abord ses compliments à Soradaci de ce qu'il avait eu le bonheur d'être mis avec moi et l'autre d'être dans le moment de me suivre. Et il n'a rien répondu. Son air interdit me donnait la plus grande envie de rire. Je ne me gênais plus. J'avais envoyé à l'enfer le masque de l'hypocrisie que je gardais toute la journée depuis une semaine. Je voyais cet espion convaincu que je l'avais trompé, mais n'y comprenant rien, car il ne pouvait pas concevoir de quelle façon je pouvais avoir eu une correspondance avec le prétendu ange qui arrivait et s'en allait dans l'instant que je l'annonçais. Il entendait le comte qui nous disait que nous allions nous exposer au plus grand risque de périr, et, poltron comme il devait être, il roulait dans sa tête le dessein de se dispenser de ce dangereux voyage. J'ai dit au moine de faire son paquet pendant que j'allais faire le trou au bord du grenier. À 1h30 de nuit, j'ai achevé l'ouverture, ayant non pas rompu mais pulvérisé toutes les planches. Ce trou était fort ample et il n'était couvert que par la plaque de plomb que je voulais tout en souchet tout entière. Je me suis fait aider par le père Balbi pour la soulever, parce qu'elle était rivée ou courbée sur le bord de la gouttière de marbre. Mais à force de pousser les spontons entre la gouttière et la plaque, je l'ai détachée, et puis, avec nos épaules, nous l'avons pliée au point où il fallait pour que l'ouverture par laquelle nous devions passer fût suffisante. En mettant la tête hors du trou, j'ai vu avec dépit la clarté du croissant qui devait être à son premier quartier le lendemain. C'était un contretemps qu'il fallait souffrir en patience et attendre à sortir jusqu'à minuit, temps où la lune serait allée éclairer nos antipodes. Dans une nuit superbe, où tout le monde du bon ton devait se promener dans la place de Saint-Marc, je ne pouvais pas m'exposer à être vu me promener là-haut. On aurait vu notre ombre fort allongée sur le pavé de la place. On aurait élevé les yeux et nos personnes auraient offert un spectacle extraordinaire qui aurait excité la curiosité et principalement celle de Messer Grande, dont les hommes veillent toute la nuit, seul garde de la grande ville. Il aurait d'abord trouvé le moyen d'envoyer là-haut une bande qui aurait dérangé tout mon projet. Remis à la volonté de Dieu, je lui demandais assistance et point de miracle. Exposé aux caprices de la fortune, je devais lui donner moins de prise que je pouvais. Si mon entreprise échouait, je ne devais pas pouvoir me reprocher le moindre faux pas. La lune devait infailliblement se coucher avant 6 heures et le soleil devait se lever à 13h30. Il nous restait 6 heures de parfaite obscurité dans lesquelles nous aurions pu agir. J'ai dit au père Balbi que nous passerions 4 heures à causer chez le comte Asquin, et d'aller d'abord tout seul le prévenir que j'avais besoin qu'il me prêtât 30 sequins qui pourraient me devenir nécessaires autant que mon esponton me l'avait été pour faire tout ce que j'avais fait. Il fit ma commission et 4 minutes après, il vint me dire d'y aller tout seul, car il me voulait parler sans témoin. Ce bon vieillard commença par me dire avec douceur que pour m'enfuir je n'avais pas besoin d'argent, qu'il n'en avait pas, qu'il n'était pas riche, qu'il avait une nombreuse famille, que si je périssais, l'argent qu'il me donnerait serait perdu, et beaucoup d'autres raisons toutes faites pour masquer l'avarice. Ma réponse dura une demi-heure, et le lecteur peut se la figurer. Raisons excellentes, mais qui, depuis que le monde existe, n'eurent jamais la force ni de persuader, ni de convaincre, parce que l'orateur ne peut pas déraciner la passion qui fait le plus puissant obstacle à son éloquence. C'est le cas de Nolenti Baculus, mais je n'étais pas assez cruel pour employer ce moyen vis-à-vis du comte. J'ai fini par lui dire que s'il voulait s'enfuir avec moi, je le porterais sur mes épaules comme aîné en chise, mais que s'il voulait rester pour prier Dieu de nous conduire, je l'avertissais que sa prière serait inconséquente, puisqu'il prierait Dieu de faire réussir une chose à laquelle il n'aurait pas contribué par les moyens ordinaires. Quisque sibi est Deus. Chacun est un Dieu pour lui-même. Le son de sa voix me fit voir ses larmes. Elles eurent la force de m'émouvoir. Il me demanda si 2 sequins me suffisaient. Je lui ai dit que tout devait me suffire. Il me les donna, en me priant de les lui rendre si, après avoir fait un tour sur le toit, j'eusse pris le parti de rentrer dans mon cachot. Cette supposition me fit presque rire, puisque ce retour ne me paraissait pas vraisemblable. J'ai appelé mes compagnons et nous mîmes près du trou tout notre équipage. J'ai séparé en 2 paquets les 100 brasses de corde et nous passâmes 3 heures à causer. Le père Balbi commença à me donner un bel essai de son caractère, mais il répétait 10 fois que je lui avais manqué de parole, puisque dans mes lettres, je l'avais assuré que mon plan pour nous sauver était fait et sûr, tandis qu'il n'en était rien et que, s'il eût prévu cela, il ne m'aurait pas tiré hors du cachot. Le comte disait que le plus sage parti était celui de rester où nous étions, car il prévoyait la fuite impossible et le danger d'y laisser la vie évident. Il dit que la déclivité du toit garni de plaques de plomb ne permettait pas de s'y tenir debout et encore moins d'y marcher, que toutes les lucarnes étaient grillées de fer et qu'elles étaient inaccessibles, car elles étaient toutes distantes des bords, que les cordes que j'avais me seraient inutiles parce que je n'aurais pas trouvé un endroit propre à y attacher ferme un bout, et que, quand même nous l'aurions trouvé, un homme descendant d'une si grande éminence ne pouvait pas se tenir assez longtemps suspendu sur ses bras ni s'accompagner jusqu'au bas, et qu'il aurait fallu que l'un de nous trois descendît un à la fois les deux, comme on descend un seau dans un puits, et que celui qui ferait cette charitable opération se sentit disposé à rester là et à retourner dans son cachot. Il dit qu'en supposant que nous eussions pu nous descendre tous les trois, nous ne pouvions penser qu'au côté du canal, puisque de l'autre il y avait la cour, où la garde Zarsenalotti veillait toute la nuit, et que n'ayant point sur le canal du palais ni une gondole ni un bateau, nous aurions dû parvenir au rivage en nageant et que dans un état déplorable et tout mouillé, nous n'aurions su où aller dans la nuit pour nous mettre en état de prendre d'abord la fuite, et que nous n'aurions pu rien faire si nous eussions attendu le jour, puisqu'on nous aurait d'abord arrêtés. Il dit que le moindre faux pas sur les plombs nous aurait fait glisser et tomber dans le canal, où il ne fallait pas espérer d'éviter la mort en sachant nager, puisqu'il ne s'agissait pas de se noyer, mais de rester écrasé, le fond du canal n'étant que de 8 à 9 pieds dans le flux et de 2 ou 3 dans le reflux. Qu'un homme donc, tombant de si haut, aurait donné sur le fond et se serait assommé. L'espace d'eau n'était pas assez grand pour modérer la violence du plongeon. Que le moindre malheur qui pourrait arriver à celui qui précipiterait dans le canal serait d'avoir les bras ou les jambes cassés. J'écoutais ces discours avec une patience qui n'était point du tout analogue à mon caractère. Les reproches du moine, lancés sans aucun ménagement, m'indignaient et m'excitaient à les repousser dans les termes qui leur étaient dus. Mais j'ai vu que j'allais ruiner tout mon édifice, car il me paraissait impossible de m'en aller tout seul, ou avec Soladaci, traître de métier et lâche par nature. Je me suis donc contenté de dire avec douceur au père Balbi qu'il pouvait être sûr que je ne l'avais pas trompé et que nous nous sauverions, malgré que je ne fusse pas en état de lui détailler mon plan. J'ai dit au comte Asquin que son raisonnement était sage et que j'en tirerais parti pour me régler avec prudence, que certainement l'accident de tomber dans le canal ne nous arriverait pas et que ma confiance en Dieu était plus grande que la sienne. Soladaci n'ouvrait jamais la bouche. J'allongeais souvent les mains pour savoir s'il était là ou s'il dormait. Je riais en songeant à ce qu'il pouvait rouler dans sa méchante cervelle, qui devait connaître que je l'avais trompé. À 4h30, je lui ai dit d'aller voir dans quel endroit du ciel était le croissant. Il me dit, en retournant, qu'on ne le verrait plus dans une demi-heure et qu'un brouillard très épais devait rendre les plombs fort dangereux. Je lui ai dit qu'il suffisait que le brouillard ne fût pas de l'huile, et je lui ai demandé s'il avait mis son manteau dans un paquet. « Vous me ferez aussi le plaisir, lui dis-je, d'attacher à votre cou un paquet de nos cordes. Je porterai l'autre moi-même. » Je fus alors fort surpris de sentir cet homme à mes genoux, prendre mes mains, les baiser et me dire en pleurant qu'il me suppliait de ne pas vouloir sa mort. Il était sûr, disait-il, de tomber dans le canal où savoir nager ne lui servirait de rien. Il m'assura qu'il ne me serait d'aucune utilité, mais qu'il pourrait bien au contraire m'embarrasser et que si je l'eusse laissé là, il aurait passé toute la nuit à prier Saint François de m'assister. Le sot termina sa prière en me disant que j'étais le maître de le tuer, mais que, n'étant pas désespéré, il ne se déterminerait jamais à me suivre. J'ai écouté cette harangue avec plaisir, car une pareille compagnie ne pouvait que me porter malheur. Je lui ai répondu qu'en se tenant dans son cachot à prier Saint François, il me serait beaucoup plus utile que s'il me suivit et que j'allais sur le champ lui faire présent de tout ce qui m'appartenait, les livres acceptés, qu'il devait aller prendre dans la minute pour les porter tous à Monsieur le Comte. Soladaci, sans me répondre, courut vite dans mon cachot et en 4 voyages porta au Comte tous mes livres, qui me dit qu'il les tiendrait en dépôt, ne me répondant rien lorsque je lui ai dit que je serais bien plus satisfait de les lui vendre pour 5 ou 6 sequins. L'avare est toujours méprisable, mais il y a des cas où l'humanité doit lui pardonner. Une 100aine de sequins que peut-être ce vieillard possédait était la seule consolation qu'il avait dans sa prison. Il est cependant vrai que si j'eusse prévu que sans son argent, ma fuite me serait devenue impossible, ma raison m'aurait forcé à faire taire le sentiment qui dans ce cas-là serait devenu faiblesse. J'ai demandé au moine du papier, une plume et de l'encre, qu'il possédait malgré les lois prohibitives. Et voici la lettre que j'ai laissée à Soladachi et que j'ai écrite à l'obscur, beaucoup plus intelligible que si je l'eusse écrite à la grande lumière. Je l'ai écrite en prononçant à haute voix ce que j'écrivais, parce qu'il m'aurait été impossible de la relire. J'ai commencé par une devise de tête sublimée, ce qui me parut fort à propos dans la circonstance. « Non moriar, sed vivam, et narabo opera domini. » David in psalmis. Je ne mourrai pas, mais je vivrai, et je raconterai les œuvres du Seigneur. David dans les psaumes. Nos seigneurs, les inquisiteurs d'État, doivent tout faire pour tenir par force dans une prison un coupable. Le coupable, heureux de n'être pas prisonnier sur sa parole, doit tout faire pour se procurer la liberté. Leur droit a pour base la justice, celui du coupable à la nature. Tout comme ils n'eurent pas besoin de son consentement pour l'enfermer, il ne peut pas avoir besoin du leur pour se sauver. Jacques, qui écrivit ceci dans l'amertume de son cœur, sait qu'il peut lui arriver le malheur qu'avant qu'il soit hors de l'État, on le rattrape et on le reconduise entre les mains de ceux-même dont il fit le glaive. Et dans ce cas, il supplie à genoux l'humanité de ses généreux juges à ne vouloir pas rendre son sort plus cruel en le punissant de ce qu'il a fait, forcé par la raison et par la nature. Il supplie qu'on lui rende, s'il a repris tout ce qui lui appartient et qu'il le laisse dans le cachot qu'il a violé. Mais s'il a le bonheur de parvenir à se voir libre hors de l'État, il fait présent de tout ce qu'il laisse ici à François Soladachi, qui reste prisonnier parce qu'il craint les dangers auxquels je vais m'exposer et n'aime pas comme moi sa liberté plus que sa vie. C. supplie la vertu magnanime de leurs éminences de ne pas contester à ce misérable le don qui lui fut fait. Écrit à minuit, sans lumière, dans le cachot du comte Asquin, le 31 d'octobre 1756, Castigans castigavit me dominus, et morti non tradidit me. En me raillant, il railla mon main, le Seigneur me railla, et il ne me livra pas à la mort. J'ai donné cette lettre à Soladachi, en avertissant de ne pas la donner à Laurent, mais au secrétaire même, qui certainement ne manquerait pas de monter. Le comte lui dit que mon billet était tel que son effet était immanquable, et qu'ainsi tout ce que j'avais devenait à lui, mais qu'il devait me rendre tout si je reparusse. Il répondit qu'il n'était pas avare et qu'il désirait de me revoir. Cette réponse nous fit rire. Mais il était temps de partir.